avant la fin du monde.
La Terre, planète bleue. Bleu océan qui couvre plus de 70% de sa surface. Mais cette eau, si indispensable à la vie, subit elle aussi les impacts de l'activité humaine et du réchauffement climatique. L'eau monte. Le niveau des océans a augmenté de 3,6 mm par an au cours de la dernière décennie. L'augmentation pourrait atteindre 1,5 cm par an d'ici à la fin du siècle et entraîner une hausse globale du niveau de la mer de 1,10 m. L'eau se réchauffe. Des vagues de chaleur jusqu'à 6,2 degrés supérieures à la normale saisonnière ont été enregistrées dans le Pacifique Nord-Ouest. L'eau se dépeuple. Près de 33% des récifs coralliens et plus d'un tiers de tous les mammifères marins sont menacés. 66% du milieu marin a été modifié par l'action humaine. En 2015, 33% des stocks de poissons marins ont été exploités à des niveaux non durables et 60% au niveau maximum de pêche durable. Vous l'aurez compris, ce soir, pour cette dernière heure avant la fin du monde, on parle océan et fonte des glaces. Pour éclairer notre lanterne, nous accueillons ce soir Juliette Mignot. Madame Mignot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc océanographe au laboratoire, à l'Institut Pierre-Simone Laplace de l'IRD, donc l'Institut de Recherche pour le Développement. Et ce soir sont également présents comme chroniqueurs, co-animateurs, réalisateurs Florent, Guillaume et Bruno. Salut.
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 Et les amis, il nous reste 57 minutes pour sauver le monde. Il y a une quinzaine de jours a été publié le rapport spécial du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère. Vous avez participé à sa relecture. Donc, en quelques mots, à quoi il sert ce rapport ?
Donc, le rapport du GIEC, ce rapport sert à faire un peu un état des lieux et de la connaissance sur l'évolution des océans et de ce mot barbare qui s'appelle la cryosphère, sur laquelle on pourra revenir. Mm-hmm. Donc, l'évolution qu'on a pu observer et ce qu'on pense qui pourrait arriver dans le futur.
Ok. Alors, parlons de la cryosphère justement, parce que les océans, je pense que tout le monde est au clair, mais la cryosphère, qu'est-ce que c'est ?
Donc la cryosphère, c'est tout ce qui est englacé à la surface de la Terre. Donc c'est essentiellement quatre choses. C'est d'une part la glace de mer, donc la glace qui flotte dans la mer. C'est d'autre part les glaciers qui sont tout en haut des montagnes, qu'on connaît par exemple dans les Alpes. Ensuite, c'est ces deux grosses calottes, on appelle ça des calottes, deux grosses masses de glace qui sont l'une au Groenland et l'autre en Antarctique. Des grosses masses de glace permanentes. Et puis la dernière chose qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est tout ce qui est sol gelé. Donc au nord de la Sibérie, par exemple, il y a du sol qui reste gelé toute l'année et qui a un impact très important sur les équilibres du climat.
D'accord, donc beaucoup de glace. Voilà. Et donc toute cette masse d'eau, que ce soit les océans ou les glaces, elles remplissent différentes fonctions. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon de ces
voilà, alors
ces rôles
pour commencer par l'océan, c'est ce que je connais le mieux. Moi, mon métier, c'est justement océanographe. Donc l'océan joue plusieurs rôles pour le climat. Donc d'abord pour les humains, il joue évidemment un rôle qu'on connaît. Hein, c'est la mer nourricière. Il y a la pêche. Nourrit à peu près. Il y a 40% de la population qui vit à moins de quelques kilomètres de la côte. Donc c'est vraiment très important pour les sociétés humaines. Et puis l'océan joue un rôle important pour le climat à deux titres. La première chose, c'est qu'il nous aide à réguler la chaleur à la surface de la Terre. En fait, le soleil éclaire plus. Il y a plus de chaleur reçue à la surface de la Terre au niveau de l'équateur par rapport au pôle. Et s'il n'y avait pas cet océan qui redistribue un petit peu la chaleur, il y aurait un écart thermique beaucoup plus fort entre l'équateur et les pôles. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose qu'il fait aussi, c'est qu'il nous aide un peu justement. Alors là, on le sait, on va y revenir, on déséquilibre un peu ce système climatique. Mm-hmm. Donc on met du gaz carbonique, du CO2 dans l'atmosphère. Et en fait, l'océan nous aide, c'est notre allié pour essayer de contrer l'effet de serre. Parce que l'océan, il absorbe en plus du CO2. Il y a du CO2 qui est capable de pénétrer à la surface de l'océan, de rentrer dans l'océan, et donc on aurait un réchauffement encore plus fort si il y avait que de la surface terrestre et pas du tout d'océan.
Ok. Donc en gros, là, ce que vous nous avez dit, c'est qu'il absorbe un peu de la chaleur et du CO2.
Voilà, il nous aide largement à faire face à ce changement climatique. Ça, c'est un des premiers points importants qui est qu'on savait déjà un petit peu, mais qui est confirmé et qui est un petit peu quantifié par ce rapport. C'est le rôle de l'océan comme ami comme allié de l'homme pour faire face un petit peu au changement climatique. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, du coup, ça le met sous pression. Mm-hmm. Ça l'abîme, ça rompt un petit peu les équilibres. Ouais. Ça rompt les équilibres de plusieurs façons. Alors, d'une part, son niveau...
Je vous interromps juste, on reviendra un tout petit peu plus tard sur cette problématique. On va rester un petit peu sur les rôles de l'océan pour l'instant. Au niveau, donc, il absorbe du CO2. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle dans la respiration aussi, production d'oxygène ? J'avais lu de ce genre de choses.
Alors, dans l'océan, comme sur la surface terrestre, la vie, y a de la vie, évidemment, et donc la vie fait intervenir un cycle de l'oxygène, de respiration et un cycle de carbone, etc. Donc l'océan est un lieu de stockage d'oxygène et un lieu d'utilisation de l'oxygène. Et donc cet équilibre-là, ce qu'on appelle ce cycle de l'oxygène, enfin la façon dont l'oxygène pénètre dans l'océan et ensuite peut être utilisé par les poissons. C'est également un cycle qui est très important pour la vie et qui est également mis à mal par ce changement climatique à cause du réchauffement et d'une compétition aussi avec le cycle du carbone.
D'accord. Bon, donc assez indispensable pour l'équilibre planétaire. Et donc on va revenir un petit peu sur ce rapport et comment il a été fait et pourquoi il a été fait. Donc si je ne me trompe pas, c'est 104 auteurs de 36 pays qui s'appuient sur près de 6000 publications. Donc c'est un travail assez titanesque. Donc comment il a été produit, comment...
Alors donc ces rapports du GIEC, il faut savoir d'abord que c'est une commande de l'ONU, d'accord, donc qui a commencé qui a commencé avec le rapport de Kyoto, en fait, quand on a commencé à s'apercevoir que le climat changeait, l'ONU, donc les pays, les États, ont mandaté les scientifiques pour dire « mais faites-nous un rapport de ce que vous savez, ce que vous comprenez ». Et depuis, il y a eu 5 rapports, à peu près tous les 7-8 ans, à la commande des États. D'accord. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui fait le GIEC, donc ce groupe d'experts, donc parmi nous, parmi les scientifiques, on c'est sur la base du volontariat. Alors, comme c'est beaucoup de travail, on n'est pas tous toujours volontaires. Donc, il y en a une partie d'entre nous qui vont. On fait pas de recherche pour le GIEC. Tout ce qu'on fait, c'est lire la littérature et synthétiser les résultats. Les scientifiques font leur science et dans le cadre du GIEC, tout ce qu'ils font, c'est synthétiser. Et puis ensuite, ils font des sortes de brouillons. En fait, ils mettent à disposition leur synthèse et nous, on peut les relire. Donc c'est justement, moi, j'ai fait partie de ces relecteurs. Donc c'est public. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez les relire. En général, vous n'avez pas grand-chose à dire.
Mais on a le droit de... Si on les
on a le droit, ouais, c'est public. À un moment donné, c'est sur un site.
Et on peut mettre aller, des commentaires.
On peut mettre des commentaires.
D'accord.
Alors après, les commentaires, on y répond. Mais enfin, voilà, ils peuvent être plus ou moins pertinents et on les prend plus ou moins en compte. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez long. Hein. Ça met à peu près 2 ans de travail pour sortir un rapport comme ça, à la demande des États. Et alors, ce qui est intéressant avec ce rapport qui vient de sortir, c'est qu'il change un tout petit peu la dynamique. Donc avant, on faisait un rapport tous les 7 ans, assez général. Et puis, on s'est aperçu que ça commençait à faire des gros rapports et surtout que l'échéance de temps entre les différents rapports était un peu large. Et donc, l'ONU nous a commencé à nous demander, donc ça a commencé avec le rapport qu'on a appelé 1.5, qui est sorti l'année dernière, en octobre 2018, puis un rapport sur les surfaces terrestres cet été, et là, nous a demandé des rapports plus thématiques, mais également plus transverses. Et donc ça, c'est vraiment une avancée qu'il faut noter, c'est que là, c'est un rapport qui intègre aussi bien le constat physique que les impacts pour les écosystèmes et les humains, et aussi qui commence à voir un petit peu les différentes solutions qu'on pourrait mettre en œuvre et les différentes options qui s'offrent à nous.
D'accord, donc il est vraiment construit pour pouvoir être utilisé. Après, il y a une version qui est à destination des décideurs publics, c'est ça ?
Voilà, alors donc le rapport en lui-même, ça reste quand même un gros pavé, bon, qui est téléchargeable sur un site internet, ipcc.ch, c'est hébergé donc en Suisse. Allez-y, téléchargez-le. Il y a des traductions en français et puis il y a effectivement ce qu'on appelle un rapport pour décideur, donc là qui est un petit peu plus digeste, qui est ce qu'on pense qu'un décideur politique ou économique pourrait lire, plutôt que d'aller dans toute la donnée. Et il est vraiment construit comme voilà l'état des lieux, voilà les différents risques qu'on prend selon les différentes trajectoires, et voilà éventuellement des outils. Il est vraiment conçu comme un outil d'aide à la décision pour qu'au niveau local et au niveau territorial, on puisse se dire voilà ce qu'on a devant nous et voilà ce qu'on pourrait faire.
Ok, non, ça a l'air... d'être intéressant et d'être. Moi, je l'ai lu. Hein. Enfin, j'ai pas lu le gros rapport, le résumé. Oui, j'ai lu le résumé et j'ai trouvé que c'était à peu près compréhensible.
D'accord.
c'est assez technique, mais très intéressant. Donc, je recommande aux gens intéressés d'aller le lire.
Moi, j'ai juste une petite question sur sur la sélection en fait des données ou des études qui sont étudiées dans le cadre du rapport. Est-ce que toutes les études qui ont été menées par les scientifiques sont prises, ou est-ce qu'il y a une première sélection avant pour utiliser certaines études plutôt que d'autres, et sur quels critères ce serait fait
Alors en principe, on essaye de prendre toute la littérature. Après, donc il y a ce qu'on appelle une littérature scientifique, hein, qui est publiée dans des journaux qui sont à peu près répertoriés et surtout qui font partie du processus, alors qu'on appelle en anglais peer review, donc c'est la relecture par nos pairs, d'accord. Donc quand on est scientifique, qu'on veut publier un résultat scientifique, on envoie un article, et puis il y a d'autres scientifiques qui sont choisis de façon anonyme, qui sont choisis et qui relisent et qui nous envoient des commentaires anonymes, et il y a comme ça une discussion pour évaluer le travail scientifique. Donc tous les journaux, enfin tous la littérature en principe de ce type-là est prise en compte. Après, là où on a un peu plus de critiques, et parce que c'est difficile, c'est tout ce qu'on appelle littérature grise, c'est-à-dire justement de la littérature moins quantifiable, pas indexée dans ces grands journaux-là, mais qui vont être alors des idées, ou bien des tribunes, ou bien des articles un peu moins répertoriés, et puis aussi toute la connaissance locale. Ce qui est très compliqué à prendre en compte, c'est qu'il y a des observations et une connaissance locale, et voire même des solutions d'adaptation et d'atténuation de l'effet du changement climatique qui sont mises en œuvre par tout un tas de collectivités locales qui connaissent très bien et même mieux, enfin en tout cas différemment que nous, leur terrain. Et ça, c'est difficile de faire remonter. Il y a un vrai travail aussi de science, là, d'interaction avec des sciences humaines et sociales, pour essayer de faire remonter cette connaissance-là qui est encore un petit peu plus difficile à prendre en œuvre. Mais par contre, en termes de littérature scientifique, oui, il n'y a pas de filtre, a priori.
Donc tout ce qui est publié. Ok, très bien.
Okay.
Et on va faire une petite pause musicale, et puis on revient tout de suite après.
VIP, let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop, collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly.
Will it ever stop?
Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. MCs like a pound of bacon, burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi.
Did you stop?
No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis.
Jealous,
cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine.
Ready
for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells.
Falling
on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked.
Police on the scene,
you know what I mean? They passed me up, could run it all, I don't mean. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
Ice, ice, baby.
Ice, ice, baby.
Ice, ice, baby.
lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose, magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Get out of here. Word to your mother.
Ice Baby de Vanilla Ice. Vous écoutez Une heure avant la fin du monde sur Radio Campus Paris et il nous reste 45 minutes. Donc nous parlons ce soir de l'océan avec Juliette Mignot, océanographe. On a vu juste avant que l'océan c'était à la fois un puits de carbone, un réservoir de chaleur en quelque sorte, et il joue dans tous les cas un rôle clé dans la régulation du climat et il limite le réchauffement climatique. Il occupe également une place centrale dans nos sociétés humaines, donc il est quand même très utile. Mais il est victime lui-même du réchauffement climatique. Donc comment se manifeste l'effet des activités humaines et du changement climatique sur l'océan et la cryosphère ?
Alors, c'est une vaste question. C'est d'ailleurs l'objet du rapport. Mm-hmm. On peut citer quelques exemples. Alors, sur la cryosphère, le principal effet, c'est donc le climat et la température à la surface de la Terre se réchauffe. Et donc, le principal effet, c'est que la glace fond. Est-ce que c'est grave ? Ça a plusieurs impacts. D'une part, la glace qui était située sur la Terre, donc j'ai parlé tout à l'heure des glaciers et du Groenland et de l'Antarctique, quand elle fond, cette glace, évidemment, elle s'écoule et elle termine où ? Dans l'océan. Du coup, là, on a une conséquence, c'est en termes d'augmentation du niveau de la mer, tout simplement parce que c'est comme si on remplissait la baignoire, on met plus d'eau dans la mer. Donc ça, c'est un exemple. On peut citer un autre exemple sur la cryosphère, qui est assez intéressante, c'est ce fameux sol gelé dont j'ai parlé en Sibérie. Ce sol gelé, en fait, il renferme, il s'est formé, il renferme de la terre un petit peu en décomposition, humide. Et donc, en fait, quand il gèle, il dégage une très grande quantité de méthane, le méthane étant également un très fort gaz à effet de serre. Donc, il y a une espèce d'emballement. À l'inverse, un sol gelé peut permettre de faire pousser des cultures, des arbres qui peuvent capter le CO2. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu les questions scientifiques et les rétroactions auxquelles on fait face. On a à la fois un effet d'emballement, mais on peut avoir très localement, et probablement de façon temporaire, également des bénéfices. Donc il y a tout ce genre de rétroaction, c'est le travail des scientifiques d'essayer d'évaluer les risques et les conséquences de nos actes. Donc ça, c'est sur la cryosphère.
Ok, mais c'est très complexe en fait.
C'est un système avec, donc tout à l'heure par exemple j'ai parlé de la fonte de la calotte qui va venir faire augmenter le niveau marin, donc du coup hop on se retrouve dans l'océan et on continue à se demander dans l'océan avec plus d'eau qu'est-ce qui se passe. Donc d'une part alors il y a des risques de submersion et d'augmentation du niveau de la mer pour les hommes, et puis donc l'océan il stocke de la chaleur, donc tout à l'heure j'ai dit c'est bien, il nous aide à contrer le changement climatique, mais en plus de ça lui-même du coup se réchauffe et ça change tout son équilibre. On a parlé d'un équilibre avec tous les écosystèmes et les micro-organismes marins. Le CO2, quand il rentre dans l'atmosphère, il se transforme en ions. Donc là, je vais dire un petit peu des gros mots, mais il y a peut-être des scientifiques qui nous écoutent, et ça va changer son pH. Son pH, ça veut dire qu'il va devenir plus acide. C'est pas beaucoup, pour l'instant, c'est 0,1 de pH. Donc le pH, ça se mesure entre 0 et 14, 0,1 de pH. Mais 0,1 de pH, ça peut suffire à ce qu'une espèce ne puisse plus vivre, ou en tout cas soit obligée de se déplacer quand elle peut se déplacer. Quand c'est un coquillage, elle a plus de mal.
Il va dérégler la chaîne alimentaire, du coup.
Et donc ça dérègle toute la chaîne alimentaire, et on voit comme ça un petit peu toute l'imbrication, aussi bien de l'aspect physique, de l'océan, de la glace, et puis avec les écosystèmes, et ensuite les hommes éventuellement, puisque on a dit, il y a beaucoup de gens qui vivent de la pêche, qui vivent au bord de l'eau, le tourisme, etc.
Et puis, Il y a aussi l'équilibre salin, là, avec la chaleur, il y a les flux, le Gulf Stream, tout ça qui sont déréglés. Le fait qu'on annonce aussi potentiellement des tempêtes, qui aujourd'hui on dit qu'il y a des tempêtes tous les siècles, qui sont vraiment des grosses tempêtes. Mais dans certaines visions les plus noires de ce rapport, ça peut être tous les 10 ans, voire tous les ans. Cette fameuse tempête du siècle qui pourrait revenir, quoi.
Voilà, exactement. Donc on a, alors là, on repart sur le point de vue vraiment physique du système. Donc on a effectivement une évolution des événements extrêmes. Donc les événements extrêmes, c'est les tempêtes, c'est éventuellement les vagues de chaleur qu'on a connues cet été. Donc on dit qu'en 2050, les vagues de chaleur de 2003, ça risque d'être l'été normal. D'accord, ce sera la condition d'été. Donc il faudra vivre avec. Donc une évolution des conditions extrêmes. Je vais juste revenir sur un tout petit point sur ce Gulf Stream, ce qui me tient à cœur, parce que c'est justement mon sujet de recherche. Ah, donc vous allez taper dans le mille. Juste redire que le Gulf Stream, c'est essentiellement un courant, un grand courant marin, donc qui effectivement circule en surface essentiellement le long de la Floride et des côtes américaines, qui est principalement dû au vent. Et ces vents, essentiellement ces vents qui traversent l'Atlantique, donc depuis les États-Unis jusqu'au vers nos côtes, sont eux-mêmes principalement dus, là je parle vraiment à l'ordre zéro, à la rotation de la Terre. Tout ça pour dire que le Gulf Stream lui-même, il est a priori relativement stable, il va rester. Par contre, associé à ça, on les mélange souvent, et y compris les scientifiques, parce que tout ça se passe un petit peu au même endroit, on a effectivement... dans ce même océan Atlantique, des échanges de température et de sel, ou en tout cas d'eau douce entre l'océan et l'atmosphère, qui font qu'on a des eaux très denses qui se transforment dans l'Atlantique Nord et qui circulent cette fois plutôt en profondeur sous le Gulf Stream finalement. Et ça, c'est effectivement cette grande circulation avec ce courant marin en profondeur fait partie de cet équilibre climatique qui, lui, est très sensible éventuellement au changement climatique et risquerait de ralentir et modifier notre climat. Voilà, juste pour remettre. Merci.
Parce que donc les eaux plus, c'est quoi, les eaux plus chaudes ou plus froides sont plus denses et cool, c'est ça?
Donc c'est les eaux plus froides,
mais ouais.
Et les eaux plus salines.
D'accord. Donc elles coulent et ça provoque.
Alors elles coulent, en fait elles se mélangent.
D'accord.
Elles se mélangent et elles se transforment en se mélangeant et voilà, ça contribue probablement à mettre en mouvement un espèce de, alors on l'a appelé le tapis roulant, vous avez peut-être lu ça, voilà. Et ce grand tapis roulant de l'océan contribue donc à redistribuer la chaleur tout autour du globe et voilà, et donc là serait... Après c'est difficile de distinguer le Gulf Stream parce qu'il n'y a pas une petite lumière sur les petites particules d'eau qui dit bah, moi je suis Gulf Stream et puis moi je suis circulation thermaline.
Oui, tout est lié.
Tout ça est lié, mais voilà, il y a des choses qui sont moins sensibles que d'autres au changement climatique.
D'accord. Et est-ce que j'ai lu aussi que l'eau se dilate avec l'augmentation de température. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a un effet significatif dans la montée des eaux ou c'est vraiment juste la fonte des glaciers?
Non, tout à fait. La dilatation thermique, alors pour l'instant, reste le principal contributeur de l'augmentation du niveau de la mer, d'accord. Donc pour l'instant, on en est à une quinzaine de centimètres d'augmentation.
Depuis quand?
Depuis l'époque, disons, pré-industrielle, depuis le début, les années 1900, 1850-1900. On est à quelques millimètres par an, d'accord. Alors effectivement, ça peut paraître peu. On peut revenir sur l'impact du niveau de la mer, mais c'est principalement, comme vous le disiez tout à l'heure, lié aux tempêtes. Le fait qu'une même tempête, du coup, avec quelques centimètres en plus de niveau marin, va pouvoir progresser beaucoup plus, les vagues de submersion vont pouvoir progresser beaucoup plus sur la Terre, et donc créer des dégâts et des impacts beaucoup plus forts. Ouais. Et donc, pour l'instant, cette dilatation thermique reste le contributeur principal de l'augmentation du niveau de la mer. Ce que dit le rapport, c'est que ça peut changer. Le problème, c'est qu'on a ces énormes réservoirs qui sont là, donc essentiellement le Groenland et la calotte antarctique, avec aussi les glaciers des montagnes, qui, eux, pourraient déstabiliser de façon massive, et là, changer un peu l'ordre de grandeur de l'augmentation du niveau de la mer. Mais donc la dilatation thermique est tout à fait un contributeur important sur ces problématiques de niveau marin.
D'accord. Et donc tous ces changements dont vous nous parlez, est-ce qu'ils sont visibles partout dans l'océan, à toutes les profondeurs, ou ça reste encore superficiel?
Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que l'océan reste une grosse bête qu'on a du mal à observer. Les gens sont toujours surpris, en fait, de se dire que le fond de l'océan, on a l'impression qu'on connaît toute notre Terre par cœur. Effectivement, la surface de la Terre, y compris la surface de l'océan, on l'observe par satellite en continu. Et on la connaît par cœur. Par contre, dès qu'il faut aller à l'intérieur de l'océan, donc en dessous, même en dessous de 10 mètres, on ne sait pas faire autrement que d'aller mesurer nous-mêmes. Donc il faut, évidemment, on va pas tous avec un petit thermomètre en 10 mètres, donc on y va en bateau, et puis on y va de plus en plus, on envoie des sortes de robots, des choses qui mesurent pour nous. Mais donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous, par exemple, de 1000 ou 2000 mètres, on sait très peu de choses sur cet océan. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand même, on a quand même des éléments de réponse à votre question, c'est que cette chaleur, elle nous arrive principalement de l'atmosphère. Enfin, nous, je dis les océanographes, donc là, je me place dans l'eau. Elle arrive de l'atmosphère et donc elle a tendance à pénétrer du haut vers le fond. Et donc, effectivement, le réchauffement est principalement visible dans les couches superficielles. Et puis, plus on descend, plus c'est mélangé sur une grande épaisseur. Et donc, ça se voit moins,
D'accord.
en termes purement de degrés.
Mais il y a quand même des... Vas-y.
Pour revenir sur la cryosphère, ce que vous disiez tout à l'heure, qui est intéressant, sur le côté du fait que des parties gelées fondent, ça peut amener un effet positif dans l'immédiat. Pour replanter des arbres, par exemple, etc. Mais il peut y avoir aussi un autre effet, plus de cercle vicieux, où on a entendu parler d'endroits où des compagnies voulaient aller exploiter du pétrole qui était bloqué par les glaces, ou des endroits où, au niveau de la banquise, où il y a une voie de bateaux qui s'ouvre, et du coup, où il va y avoir plus de bateaux, qui va aussi avoir un effet de cercle vicieux. Ça aussi, c'est précisé dans le... Dans le rapport, enfin, sur...
Voilà, alors, ce qu'on a, c'est qu'on a un certain nombre de scénarios. Donc, on réfléchit à qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Alors, ces scénarios, ils prennent en compte plusieurs choses, et de plus en plus, on essaye d'affiner les scénarios. Enfin, cette fois, c'est pas nous, les climatologues, mais on travaille avec des économistes, des gens, des démographes, des gens qui travaillent sur des stratégies internationales, pour essayer de dégager des scénarios d'évolution des relations internationales et voir un petit peu ce qui va se passer. Dans les scénarios qu'on appelle du laisser-faire, si on ne fait rien, effectivement, ça correspond à des choses du type considérer que le réchauffement climatique est une bonne chose parce que, par exemple, ça ouvre des voies de navigation beaucoup plus rapides à travers l'Arctique, on peut aller tout droit et on n'a pas besoin de... Enfin, on peut traverser, du coup, entre la Russie et l'Amérique. Donc ça, c'est... Voilà. La rétroaction de ça sur le climat n'est pas directement prise en compte dans le rapport, parce que c'est difficile à quantifier. Mais par contre, ça rentre dans un scénario, dans une histoire qui fait partie des choses qui sont racontées dans le rapport.
Moi, j'ai une petite question. Tout à l'heure, on parlait des rapports. Il y en a eu 5 qui sont publiés tous les 5 à 7 ans. Donc, grossièrement, ça fait à peu près 30 ans. Dès le premier rapport, il n'y a pas eu des alertes là-dessus, sur le fait qu'il y a un changement climatique et qu'il y a des gros problèmes?
Alors, si, tout à fait. Donc, déjà, il faut savoir que l'effet de serre et la contribution donc, du dioxyde de carbone à l'augmentation de la surface de la Terre, c'est quelque chose qui avait été déjà prévu et calculé, disons, un petit peu théoriquement par des scientifiques à la fin du 19e siècle. Donc, on le sait, en fait. On le sait, on le savait. Dès qu'il y a eu la révolution industrielle, ils ont commencé à dire que ça risque de réchauffer la Terre. Et puis, effectivement, dès les premiers rapports, on avait... C'est un groupe américain qui avait fait un premier modèle de climat, donc où ils prenaient en compte, ils avaient essayé de mettre dans un ordinateur de l'époque, hein, là on est dans les années 80, les principaux phénomènes qui sont liés au réchauffement climatique, et ils prévoyaient déjà une augmentation de la température globale à la surface de la Terre. Là-dessus, il y a différentes choses. Pourquoi est-ce qu'on a évolué ? On a évolué d'une part parce que les modèles sont de plus en plus complexes, de plus en plus éventuellement précis, ou en tout cas ils intègrent des processus de plus en plus larges, c'est-à-dire au début il n'y avait que l'atmosphère, puis après on a mis l'océan, puis après on a commencé à mettre de la glace, on a mis l'impact des surfaces continentales, parce que les végétaux, ça ne fait pas la même chose qu'une ville, ça ne fait pas la même chose qu'un désert sur la façon dont les radiances solaires arrivent à la surface de la Terre. Puis on a commencé à prendre les écosystèmes marins, parce que même ils consomment le gaz carbonique et ils participent aux choses dont on a parlé là, d'atténuation de l'effet, etc. Donc on a d'une part des modèles qui se complexifient. Et puis après, je voudrais prendre un exemple un peu personnel. Moi, j'ai commencé en recherche, disons, il y a une vingtaine d'années. Et il y a une vingtaine d'années, on parlait déjà de l'horizon 2030. Mais sauf qu'il y a une vingtaine d'années, l'horizon 2030, c'était dans 35 ans. Et donc, en termes de communication, on disait, voilà, il y a un changement climatique, et en 2030 ou en 2050, moi, il y a 20 ans, je ne savais pas du tout ce que je ferais en 2030. Enfin, j'avais 20 ans, et donc, c'était encore loin, en fait. Et je pense qu'il y a aussi, là, en ce moment, une prise de conscience, parce que cet horizon 2030 ou 2050 dont on parle, finalement... Il est plus loin du tout. Ouais. Et malheureusement, en fait, pourquoi il y a une prise de conscience, c'est qu'il commence, à mon avis, à être dans le radar des hommes politiques. Mmh. Et en fait, voilà, c'est malheureusement beaucoup là que se prennent les décisions. Et donc, à partir du moment où on leur dit 2030, enfin, il y en a qui pensent peut-être déjà à leur élection en 2030, j'en sais rien. En tout cas, voilà, on commence à avoir vraiment des échéances qui changent et qui deviennent concrètes, même pour nous, climatologues, qui travaillons avec ces chiffres et ces échéances depuis longtemps.
Mmh. Mais surtout qu'on...
puis qu'on voit les conséquences et puis les évolutions du réchauffement climatique à des échéances effectivement très courtes, où y compris dans, comme on disait, dans un mandat politique, on peut voir la différence et des choses évoluer. Et donc du coup, c'est là la prise de conscience, elle est là. Quoi. C'est...
Voilà, on a aussi nous-mêmes l'observation, ouais. C'est-à-dire que 2003, canicule, on n'a jamais vu ça. Cette année, 2 canicules dans l'été. Donc on voit bien qu'on est quand même en train de changer de monde.
Ça.
Quoi.
Ça commence à devenir normal. C'est ça qui est problématique.
C'est vraiment... c'est là, quoi.
Et une petite question, dernière question avant une petite pause musicale. Est-ce que ces changements, donc sur l'océan, sont irréversibles?
Alors, irréversible, c'est une grave question. Et c'est pas tout à fait une petite question. Ah. La première chose, c'est que quand on parle de l'océan, encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé un peu comme une grosse bête, d'accord ? Donc, qui est difficile à observer, mais qui est également très inertielle, ou en tout cas qui met du temps à changer. Mm-hmm. Et le problème, c'est que là, on est vraiment parti pour un changement sur une trentaine d'années. Alors, on va parler après des solutions et de qu'est-ce qui s'offre à nous. Le rapport dont on est en train de parler dit vraiment que là, on a une trentaine d'années pendant lesquelles on va avoir du mal à changer de trajectoire. Par contre, on peut encore changer derrière. Mmh. On a encore des boutons qu'on peut tourner. On n'est pas au volant d'une voiture folle sans frein ni volant. On peut encore faire quelque chose et il est encore temps de faire quelque chose.
Ok, tout espoir n'est pas perdu. C'est parti pour une petite pause musicale.
Gaspésien suivait son père chaque matin, 15 ans et demi et déjà le pied marin. Sous la lueur d'un vieux fanal, accompagné par les étoiles, prenait le large, le vent dans les voiles. Tous les jours son père lui disait, quand il remontait les filets, y a tant de poissons dans le Saint-Laurent, qu'on en aura jusqu'à la nuit des temps. Et au bout de 40 saisons, le paternel comme de raison, décida de jeter l'ancre pour de bon. Le petit pêcheur gaspésien, qui n'avait plus rien d'un gamin, prit la relève du bonhomme au la main. Comme les pêcheurs des environs, il voulut prendre de l'expansion, troqua le vieux bateau pour un plus grand. On ne peut pas arrêter le changement. Le petit pêcheur gaspésien roulait sa bosse avec entrain dans les années 70 et 80. Et pour mieux runner sa business, il prit avec lui ses deux fils, comme le père l'avait fait avec lui jadis. La pêche était en plein essor, c'était l'époque des grands records. Il revenait chaque jour à marée basse, le bateau rempli de morues bien grasses. Pêcheur gaspésien, sans monter en lui le chagrin, quand il voit ses garçons exilés au loin. Les deux ont les pieds bien au sec, l'un à Montréal, l'autre à Québec, plus jamais ils ne sentent l'odeur du varech. Le poisson est jamais revenu, et son beau bateau fut vendu, il ne lui reste que le paysage, et ses souvenirs quelque part au large.
C'était Histoire de pêche des Cowboys Fringants. Vous êtes sur Radio Campus Paris et l'horloge tourne. Il nous reste 25 minutes pour sauver le monde. Guillaume, tu nous as préparé une chronique ?
Oui. Alors, les changements liés à la cryosphère et à l'océan, comme on a pu en parler, c'est pas simple forcément à comprendre pour tout le monde. Et c'est vrai que souvent, on en voit la surface alors que c'est une portée globale. Du coup, j'ai cherché une façon d'imaginer un peu ces changements et de réfléchir à comment, dans le futur, les gens pourraient aborder ce sujet-là. Et là, ça a tilté. Je me suis dit, bah bien sûr, le cinéma. Le cinéma, tout le monde connaît et c'est quelque chose qui a passé les âges. Donc de nombreux films ont été complétés par des suites, voire même rebootés, c'est-à-dire tournés pour mieux coller finalement à leur époque. Comme plus récemment Ghostbusters, qui a par exemple modernisé sa version en faisant une version plus féministe pour coller plus avec son temps. Donc imaginons ensemble des films connus, tels qu'ils pourraient être envisagés dans un futur proche. Commençons simplement avec un succès historique, Titanic. C'est l'histoire d'un bateau qui part de Londres et qui traverse l'océan Atlantique, direction New York. Et qui, sur son trajet, un soir où Rose et Jack se font des bisous dans une voiture, prend soudain un peu d'avance. Et ouais, le réchauffement, ça fait disparaître la calotte polaire et du coup les icebergs. Résultat, plus besoin de se demander s'il y avait de la place sur cette porte à la dérive. Problème résolu. Pour la même raison, on pourra rebooter aussi Happy Feet, l'histoire du petit manchot qui ne sait pas chanter mais qui a le rythme dans la peau et qui passe ses journées à danser et glisser sur la banquise. Et Mumble, c'est son petit prénom, pourra au choix apprendre à faire de la batterie sur les cailloux qui ont été révélés par la fonte ou groover tranquille en toute quiétude au bord de l'eau ou sinon monter un petit groupe de natation synchronisé pour s'enjailler dans l'océan. Et puisqu'on parle d'océan, forcément le monde de Nemo, ce film animé qui raconte l'histoire de Marin, un poisson clown veuf qui surprotège son fils Nemo, dernier rescapé de sa fratrie décimée par une attaque de barracuda qui l'a handicapé au passage. Lorsque son fils quitte la maison pour la première fois, qui est une anémone, il se fait kidnapper par des pêcheurs qui l'emmènent dans un aquarium à des milliers de kilomètres de là. Donc Marin, le papa, décide de traverser les océans via les courants marins profonds, accompagné par son ami Dory, poisson chirurgien mentalement handicapé, affrontant les requins et autres méduses. Bon, finalement, tout le monde se retrouve, tout va bien, ils vivent ensemble en toute harmonie. Bon, alors déjà, il y a un problème dans le scénario de base. Normalement, dans la nature, si la femelle poisson clown décède, alors le mâle change de sexe et s'occupe du foyer. Et là, avec le remake, problème résolu. La fonte des glaces entraîne un déséquilibre salin dans les océans, comme on a pu le lire, impactant les courants marins et déréglant les écosystèmes, menant même très probablement à la destruction de la grande barrière de corail et donc des anémones, où vivent les poissons clowns, de façon presque symbiotique. Du coup, marin ou marine, maintenant on s'en fout. Il y a aussi Seul au monde, cette grosse pub de 2 heures pour FedEx, où Tom Hanks se crache dans le Pacifique, il échoue ensuite sur une île et survit avec son ballon Wilson en mangeant des noix de coco. Comme d'après les études les plus récentes, les eaux pourraient monter de 1 à 2 mètres d'ici 2100 et submerger près de 2 millions de kilomètres carrés de terre. Là aussi, petit changement dans le pitch. C'est toujours un amérissage pour Tom, mais suivi d'une longue croisière pas top sur un bateau gonflable. En fait, c'est peut-être Abyss qui s'en sortirait plutôt pas mal. Ce film de James Cameron où une plateforme pétrolière, réquisitionnée pour une mission de sauvetage d'un sous-marin nucléaire échoué au fond des eaux, finit par tomber sur un peuple alien vivant tout au fond de l'océan. Ces mêmes aliens qui venaient de lancer des tsunamis sur l'ensemble du globe pour punir l'humanité qui saccage la planète. Mais qui se ravisent quand ils rencontrent les gentils foreurs pétroliers. Là finalement, ils iraient peut-être au bout et ils laisseraient les vagues se briser contre notre civilisation. Et finalement, qui pourrait leur en vouloir ? Non, je pense que vraiment c'est Waterworld qui avait raison. On va devoir apprendre à survivre sur des radeaux de fortune et des villes flottantes à la dérive, espérant trouver un jour une terre encore émergée. Jusqu'à ce que, comme Kevin Costner, des branchies nous poussent et que nous puissions vivre heureux avec Ariel et ses amis, là, tranquillement, sous l'océan.
Ouais, sous l'océan.
Sous l'océan.
Sous l'océan.
Sous l'océan.
Quand la salle du biguine de biguine, ça balance à swing.
Ça balance à swing.
Ils ont le sable, ça c'est certain. Nous le jazz volé.
Merci Guillaume. Alors, je pose la question à notre invité. C'est ça qui nous attend ? Une terre submergée, une vie sous l'eau ?
Alors j'espère pas. J'espère pas complètement. Je pense que je disais qu'on avait encore le choix. Bon, même si j'aime beaucoup l'océan, hein, un peu de plongée sous-marine ne fait pas de mal. Mais non, on aura encore besoin de la Terre et c'est encore possible. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui est soulignée par le rapport. On peut encore changer. Donc on n'est pas, on va pas forcément arriver à 1 mètre en 2100, comme vous le disiez. On peut encore limiter cette montée du niveau de la mer. On peut encore limiter le nombre de tempêtes, enfin la fréquence des tempêtes extrêmes. On peut encore limiter l'acidification des océans. C'est possible. Le problème, ce que montre le rapport, c'est qu'il faut changer maintenant. On l'a évoqué tout à l'heure, l'océan, c'est une grosse masse d'eau qui met du temps à changer, qui met du temps à se mettre en route et à ralentir. Et donc là, si on veut qu'il y ait des effets visibles dans une trentaine d'années, il faut commencer tout de suite à changer de trajectoire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'exploitation et de développement d'une façon générale.
On reviendra sur les solutions un petit peu plus tard, mais du coup, en termes de conséquences, en fait, donc on a parlé d'événements extrêmes, de montée des eaux. Qu'est-ce que ça représente en fait ? Quelles seront les populations les plus touchées ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des populations plus ou moins vulnérables. Hein. Il y a des populations qui sont capables de s'adapter. C'est vrai que dans un temps court, vivant en France ou en Europe, on se dit bon bah c'est pas grave. Hein. De toute façon, je vais m'acheter une clim. De toute façon, de l'eau, ça coule au robinet, donc j'aurai toujours à boire. Je vais m'acheter plus de débardeurs et puis voilà, je vais donner mes vieux manteaux et tout ira bien. Donc c'est vrai que avec nos modes de vie, en tout cas dans les 20 prochaines années, on se dit je peux encore vivre. Après, donc, d'une part, dans cette solution-là, il y a un côté fuite en avant, et ne pas vouloir regarder ce qui se passe. Et puis, évidemment, ça, c'est une minorité de la population. On a, d'une part, toute une partie de la population qui est beaucoup plus vulnérable aux extrêmes de chaleur. Et d'ailleurs, par exemple, je travaille pour l'Institut de recherche pour le développement, comme on l'a dit au départ, et je travaille beaucoup avec le Sénégal. Et au Sénégal, on étudie beaucoup les vagues de chaleur également. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais les températures extrêmes au Sénégal, c'est pas parce qu'ils ont l'habitude qu'il fasse chaud qu'ils sont pas sensibles et vulnérables. Et on a des vagues de chaleur et des extrêmes qui sont encore plus dangereux, enfin en tout cas aussi dangereux que nous pour la santé. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'ils ont tout un système de santé et un système d'alerte et un système de protection qui est beaucoup moins préparé que nous à faire face à ces événements extrêmes. Donc des vagues de chaleur. Et puis, alors évidemment, on a toutes les populations qui vivent autour de la mer et du niveau de la mer, avec un risque de submersion, un risque de d'inondation.
Ce qui représente, si je ne me trompe pas, à peu près 680 millions de personnes en zone côtière, d'après ce que j'ai vu dans le rapport.
Oui, voilà, c'est ça. Alors on dit 40%. Oui, ça continue, ça augmente. On a vraiment on a le développement de grandes villes près de la mer, hein, qui sont de plus en plus développées. Il y a aussi autre chose auquel on ne pense pas, c'est qu'avec l'augmentation du niveau de la mer, on a aussi des intrusions d'eau de mer dans les sols et donc une salinification des sols. Et donc, du coup, qui devient moins propice à l'agriculture, ou en tout cas avec d'autres espèces qui vont pousser là, qui ne sont pas forcément les espèces qu'on a l'habitude de consommer, ou qui sont donc comme ça également, ce genre de conséquences.
Donc ça peut aussi impacter par exemple tout ce qui est nappe phréatique et compagnie.
Voilà, on peut avoir des problèmes d'eau potable qu'on voit déjà dans certains pays, on peut avoir tout ce type de problème. Après, là je vais juste battre un petit peu contre mon camp. Il faut aussi voir que il y a un certain nombre de ces problèmes qu'on voit, que ce soit aussi au niveau de l'érosion côtière, au niveau des problèmes d'accès à l'eau potable et de nappe phréatique, etc., qui ne sont pas uniquement dus au changement climatique. Il faut voir que tous ces problèmes-là, ça serait un peu trop simplifié que dire que tout est le changement climatique. C'est souvent multifactoriel avec du développement touristique, l'augmentation, enfin la croissance des villes, etc., qui font que les problèmes sont, les solutions sont pas toujours évidentes et les problèmes sont multifactoriels.
D'accord, merci beaucoup. On repart pour une petite pause musicale.
C'est un océan
C'était Océan de M. Vous écoutez une heure avant la fin du monde et il nous reste 10 minutes. Bruno, petite cloche. Bruno, t'as également préparé une chronique ?
Ouais, alors du coup, j'ai un peu galéré parce que quand je me suis mis à préparer cette chronique, j'ai commencé par regarder des citations en fait sur le sujet. Donc je me suis mis devant Google, désolé, et j'ai tapé citation océan, citation banquise, citation mer, etc., etc. Et finalement, en fait, j'en ai trouvé plein. Je me suis dit, tiens, en fait, ce serait intéressant d'avoir l'avis de notre invité sur ces citations. Mais en fait, je me suis vite perdu. En fait, il y en avait trop. Par exemple, il y avait des citations lyriques et poétiques. Sur les champs de glace apparaissent de froides ombres bleu foncé, et ça et là, les hautes arêtes de la banquise s'allument de lueurs roses, dernier reflet du jour mourant. En haut brillent les étoiles, éternel symbole de la paix. De Vers le pôle de Fridtjof Nansen, pardon.
Le nom est moins poétique.
Ouais. Ou ce poème, L'homme et la mer de Charles Baudelaire. Ça commence comme ça. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Bon, c'est très beau, mais ça continue comme ça et c'est trop long. Je vous laisse d'ailleurs le lire, L'homme et la mer, Charles Baudelaire. Il y a aussi, on trouve aussi des citations jolies, mais pas tout à fait en fait dans le sujet. Une forte vie intérieure se suffit à elle-même et ferait fondre 20 années de banquise. Louis-Ferdinand Céline. Bon. Les vers d'eau ont la même passion que les océans. Victor Hugo. Bon, pareil. Bon, après, on trouve aussi des citations un peu what the fuck. Focaliser, activité qui consiste à localiser un phoque sur la banquise. Pff, ok. L'océan serait-il beaucoup plus profond s'il n'y avait pas les éponges? C'est une bonne question, ça. Mais c'est de qui? Bah, citation d'un anonyme. Alors là, je commence en fait à toucher le fond. Non, pas tout à fait. Il y a encore les fameux proverbes chinois sur un fond d'écran de forêt, de rivière, de montagne. Par exemple, lorsque tu bois de l'eau, souviens-toi de la source. Ou quand tu veux sonder la profondeur d'un cours d'eau, n'utilise pas tes deux pieds. Ouais, bon, à part que c'est effectivement le cas que tu coules si tu... Bon, ok, c'est un bon conseil, mais... Bon, bref, je me perdais. Sur Internet, on trouve vraiment beaucoup de choses, mais au final, c'est compliqué de trouver des citations qui sont vraiment dans le thème et qui font réagir. Et au final, bah, j'ai trouvé celle-ci, qui m'a fait quand même réfléchir. À l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. Hubert Reeves. Alors c'est vrai ça, que c'est précieux l'eau, qu'on est la seule planète à en avoir sous une forme qui est propice à la vie, en tout cas que l'on sache. On a la chance d'en avoir sous plein de formes différentes. Donc cette citation, c'est aussi le parallèle entre l'eau et l'or, enfin l'argent. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette citation? L'eau, c'est précieux? On pourrait ne plus en avoir? Est-ce que toute forme d'eau est utile pour nous? On ne doit pas faire n'importe quoi avec l'eau?
Alors, je ne connaissais pas cette citation, donc je vous remercie, je la trouve très intéressante. Oui, l'eau, c'est précieux surtout, comme on l'a dit, sous toutes ses formes. On a besoin d'eau glacée, on a besoin d'eau liquide, on a besoin d'eau qui soit propice à la vie, et on a besoin d'eau pour boire. On a parlé de menaces sur chacune de ces formes d'eau, avec une salinification de l'eau potable, avec une fonte de la banquise, avec une transformation physico-chimique de l'eau de l'océan. Et on en a besoin. Et l'eau, ce qu'elle a en plus, alors c'est peut-être pas dit là, je l'ai dit, je le redis, c'est qu'elle a cette capacité à emmagasiner de la chaleur sur des très longues échelles de temps, qui en fait vraiment un allié, et qui fait aussi que, si on commence à le modifier, ça risque d'être un problème pendant très longtemps.
D'accord.
Ok, bah merci. Et une petite dernière pour la route. Juste une petite dernière, parce que j'étais obligé en fait de citer Greta Thunberg, hein, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Donc une petite citation qui pourra tous nous faire réfléchir. C'était à Davos. Elle prononce un discours qui commence par Our house is on fire. Notre maison brûle. Et vers la fin de ce discours, que je vous invite aussi à lire ou à regarder, elle dit « We must change almost everything in our current societies ». Nous devons changer à peu près tout dans nos sociétés. Personnellement, moi, ça me rappelle ce slogan dans les manifestations sur le climat « Changeons le système, pas le climat ». Alors d'après vous, par quoi devons-nous commencer pour changer tout ça?
Alors, bah, c'est une bonne question, c'est une question compliquée. D'abord, on peut changer les prises de conscience. Les consciences, et ça, c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est ce qu'on fait là ensemble en discutant de tout ça. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font les étudiants le vendredi et le samedi. C'est ce que fait Greta Thunberg, enfin, c'est ce qu'elle contribue à faire. Et changer ses consciences, c'est ça qui fera avancer et changer un petit peu les choses. On avait un ministre qui parlait de la politique des petits pas. Je suis d'accord que c'est pas assez, ça va pas assez vite. Par contre, créer des petits déclics chacun. Nous qui sommes là autour du micro, nous, vous qui nous écoutez, voilà, ça, c'est ça qu'on peut faire. C'est continuer à en parler, c'est continuer à prêcher, c'est continuer à dire que tout n'est pas perdu. On n'a pas beaucoup le temps d'en parler, mais dans le rapport, c'est très important de voir qu'il y a une trajectoire qui nous permet de limiter les dégâts. On a un changement climatique, il est en cours, voilà, il est là, il faut vivre avec, mais on peut encore limiter les dégâts. Et donc, ça vaut le coup d'agir, d'en parler. Alors après, des solutions évidemment stratégiques à l'échelle mondiale, elles se prendront quand toute la population sera derrière eux pour dire « voilà, maintenant c'est plus possible et c'est plus cette société dans laquelle on veut vivre
». Et qu'est-ce que ça pourrait être à votre avis? J'ai cru comprendre que le point central, c'était les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas dans le cas de l'océan.
C'était plutôt le rapport de l'année dernière qui était le rapport qui expliquait comment est-ce qu'on pouvait se limiter à 1,5 ou à 2 degrés, qui quantifiait un petit peu les émissions de gaz à effet de serre qu'il faut limiter, d'accord. Et donc ça, c'est assez drastique, hein, il faut limiter de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et arriver quasiment à l'équilibre en 2050, c'est-à-dire plus d'émissions, arrêter arrêter d'émettre. D'accord. Donc ça, c'est drastique. Et donc, je pense qu'un mot clé, quand même, c'est d'aller vers de la sobriété. Chacun d'entre nous, à toutes les échelles. Ce qu'il faut, c'est peut-être arrêter de parler de croissance. Alors évidemment, à mon échelle, c'est facile. Et je suis quand même contente quand, là où je vais en vacances, mon téléphone capte, alors que l'année dernière, il ne captait pas. Ma batterie, elle est un peu plus... Elle tient plus longtemps, etc. Donc c'est difficile, hein, la sobriété. C'est vraiment un effort. Chacun, c'est aussi changer un peu nos mentalités. La vie, elle ne fait pas que s'améliorer. Il y a un moment donné, il va falloir un petit peu se dire qu'est-ce que je peux faire pour réduire. Je ne suis pas forcément obligée de courir le monde, de courir la vie et d'avoir le dernier cri sweatshirt ou basket. Voilà, un petit peu réduire parce qu'on est obligé et parce qu'on ne va pas y arriver sans.
Et puis ça, on peut tous le faire. Et en fait, est-ce qu'il y a des solutions un peu concrètes au niveau des infrastructures, par exemple ? On voit que le réchauffement climatique et certains de ses effets est déjà là. Donc il y a peut-être des choses à mettre en place au niveau de la protection contre les inondations ou contre les tempêtes, mettre des dispositifs en place. Parce qu'au final, il faut déjà qu'on commence à s'adapter.
Voilà, alors il faut commencer à s'adapter. Là, c'est difficile après de parler de solutions globales. Parce qu'en fait, ce que dit aussi le rapport, c'est qu'il fait donc un constat. Mais il y a aussi un certain nombre de... Enfin, les conséquences sont relativement locales. Elles dépendent... par exemple, si on parle d'inondations, elles vont dépendre de la forme de la côte, de l'exploitation qui est faite de la côte, des populations qui vivent là. On a dit, il y a des populations qui s'adaptent plus ou moins vite, un petit peu différemment. Et donc, on va avoir aussi différentes formes d'adaptation. On va avoir la construction de digues, c'est ce que font les Hollandais, enfin les Néerlandais depuis déjà des années. Ils sont déjà face à ce problème, ils construisent des digues. On peut avoir des adaptations plutôt par des processus naturels, planter des mangroves, planter des formes de végétation qui permettent de limiter l'intrusion d'eau salée vers l'intérieur des terres. Il y a certains endroits où carrément il faut bouger, il faut déménager, déplacer des populations. C'est aussi une forme d'adaptation. Voilà, c'est comme ça. On abandonne. Il y a ce fameux immeuble dont on voit souvent les photos là, sur la côte atlantique, à Soulac, où on a fait déménager les gens. La mer progressait, il faut déménager. Voilà. Les solutions, elles ne sont pas... Je parlais tout à l'heure de problèmes multifactoriels. C'est aussi des solutions multifactorielles. Il y en a beaucoup. Il y a peut-être... Je ne sais pas si on arrive à la fin. Il y a une solution, quand même. Qui est importante et qui est soulignée dans le rapport, et là, je ne veux pas passer à côté, donc j'en parle maintenant, c'est l'éducation. Pour la première fois, le rapport explique que, justement, le rapport, il est là, il faut que les gens puissent le lire, les gens puissent se l'approprier, et les gens considèrent éventuellement des solutions et de l'adaptation au niveau local. Pour faire ça, il faut le connaître, il faut le lire, il faut avoir conscience des problèmes climatiques, conscience des enjeux. Et ça, ça passe beaucoup par l'éducation. L'éducation des enfants, l'éducation des jeunes, l'éducation de tout le monde. Tout le monde est concerné, tout le monde doit savoir, tout le monde doit connaître. Et il faut communiquer, donc, comme on le fait là, et d'une façon générale. Donc allez-y, allez porter la bonne parole.
Très bien. Est-ce qu'un de vous a une dernière question ? On a un tout petit peu de temps. Sinon, on enchaîne. Ok, donc...
C'est bon.
Non, attends deux minutes encore. Donc, en gros, le message, que, d'après ce que j'ai compris, c'est bon, le changement climatique est là, mais c'est pas... En fait, c'est un choix. Il y a plusieurs trajectoires, donc...
C'est maintenant
tout n'est pas perdu.
Choix.
Voilà. Et c'est maintenant... On peut encore changer les choses, donc je pense que tous, on peut y arriver. C'est un petit peu le but de l'émission aussi.
Parlez-en. Tout le monde
voilà,
doit en parler.
Parlons-en.
Partagez l'émission.
On arrive donc au bout de cette heure avant la fin du monde. Merci à notre invitée Juliette Mignot d'avoir été là. Merci Bruno, merci Guillaume,
merci Charlotte.
Laurent,
merci
derrière les platines. Est-ce qu'on a réussi à sauver la planète ? Je sais pas, mais je pense qu'on a fait avancer un petit peu les choses.
On a fait un pas.
Pour la suite, rendez-vous à la prochaine émission le jeudi 31 octobre à 20h. Et tout de suite après, ce sera MapMonde.